Dialogue entre Congolais à présent avec Alain Hirung à la présentation.
Bonsoir. Fonctionnement des institutions provinciales. Plusieurs cas de détournement des deniers publics sont enregistrés dans certaines provinces, notamment le Bas-Congo, le Nord-Kivu, le Maniema, le Kassai-Oriental et le Katanga. Qu'est-ce qui explique ces détournements et que faut-il pour améliorer le fonctionnement des institutions provinciales? Trois analystes politiques participent à cet échange. Il s'agit du professeur Faustin Toengao, politologue et enseignant à l'Université de Kisangani en province orientale. Bonsoir, professeur.
Bonsoir, monsieur.
Professeur Mbouiboua Kalala, politologue et enseignant à l'Université catholique au Congo, ex-faculté catholique de Kinshasa, il est avec nous dans ce studio. Bonsoir, professeur.
Bonsoir.
Guigui Gaston Désiré Moulombolé, politologue et chef des travaux à l'Université de Lubumbashi au Katanga. Bonsoir, Guigui Gaston.
Bonsoir, monsieur le journaliste.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission, réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Plusieurs cas de détournement des deniers publics sont enregistrés dans certaines provinces de la RDC. Ces détournements sont attribués soit à l'exécutif provincial, soit encore à quelques membres des bureaux des assemblées provinciales. Le point avec vous, Kelly Nkouté.
Commençons par le Nord-Kivu, où le gouvernement provincial est accusé de mauvaise gestion des fonds publics par l'Assemblée provinciale. La commission d'enquête de l'Assemblée provinciale notait par exemple que l'exécutif provincial tenait deux comptabilités parallèles, l'une gérée par un comptable et un ordonnateur délégué reconnu officiellement, l'autre par contre gérée par le conseil financier du gouverneur de province du Nord-Kivu. Dans la province du Katanga, deux ministres provinciaux, dont celui du budget et des finances, ont été interpellés ce jeudi à l'Assemblée provinciale pour éclairer l'opinion sur la confusion et la mégestion constatées par les députés lors de leur mission de contrôle des fonds alloués aux entités territoriales décentralisées par le gouvernement provincial. Cap sur la province du Maniema, là aussi l'Assemblée provinciale a voté hier mercredi pour la déchéance de Pierre Massoudi Mendes, vice-gouverneur de cette province, accusé de malversations financières. Au Bas-Congo, le président de l'Assemblée provinciale et le questeur accusé de détournement de 90 millions de francs congolais ont été remplacés à l'issue d'un vote organisé mardi dernier à l'Assemblée provinciale. Dans un communiqué de presse remis ce jeudi à Radio Capi, l'ancien président de l'Assemblée provinciale, le député François Kimassi, ne reconnaît pas la validité des élections organisées le mardi 31 octobre dernier pour élire de nouveaux membres du bureau de cet organe délibérant du Bas-Congo. Il estime que ces élections se sont effectuées en violation flagrante du règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée provinciale du Bas-Congo. Enfin, au Kassai-Oriental, l'ancien président de l'Assemblée provinciale, l'ancien questeur et cinq membres du personnel administratif sont accusés du détournement de plus de 190 millions de francs congolais.
Merci, Kevin Kouté. Professeur Faustin Toengao, je rappelle que vous êtes politologue et enseignant à l'Université de Kisangani en province orientale. Qu'est-ce qui explique, d'après vous, tous ces cas de détournement?
Je vous remercie d'abord pour l'invitation à cette émission. Je crois qu'on ne peut pas isoler ce qui se passe dans les institutions provinciales. Il faut comprendre ça dans le contexte général du fonctionnement de notre système, le système politique, le système administratif de notre pays. Ce sont les éléments du système. Le système lui-même est malade. Il est aisé de comprendre aussi que les éléments de ce système soient malades. Et ce que nous vivons dans les institutions provinciales traduit justement l'image réelle du fonctionnement de notre pays en ce jour et surtout en ce début de la Troisième République. Je crois qu'on peut chercher à comprendre ce qui se passe dans les assemblées provinciales, d'abord au niveau même de la conception des instruments juridiques qui ont organisé la réforme. J'ai dit en passant que la décentralisation, la régionalisation constitutionnelle est l'une des plus grandes réformes de cette Troisième République. Et si elle n'est pas bien balisée, il est à craindre que ce que nous vivons aujourd'hui s'applique davantage. J'ai dit que les textes n'ont pas été assez très bien conçus dans ce sens que lorsqu'on voit la loi électorale qui définit les conditions ou les critères d'éligibilité des dirigeants, C'est vrai que l'élection est un procédé démocratique par excellence pour désigner les dirigeants, mais l'élection en elle seule ne suffit pas, ne garantit pas la désignation des hommes qu'il faut là où il faut. En dehors du fait d'être congolais, en dehors du fait de présenter les documents qui viennent de l'état civil, ne suffit pas. Il a fallu aussi ajouter un peu d'autres critères liés notamment à la moralité, à l'expérience, pour que la sélection des candidats au niveau des entités provinciales et même locales soit assez rigoureuse.
Merci.
On n'a pas tenu compte de ça. Il suffit d'être populaire pour être élu, et on sait comment l'élection se passe chez nous. On sait qu'on a affaire à une population très pauvre, l'argent circule. Mais il faut comprendre aussi que on est en train d'évoluer vers la fin de la législature, vers la fin de ce premier mandat, aussi bien au niveau national comme au niveau provincial. Il y a beaucoup de ces dirigeants qui étaient placés par certaines personnalités au niveau central, par leurs maîtres, et s'ils n'ont pas bien servi, on assistait progressivement au lâchement, les maîtres sont en train de lâcher tel ou tel pion.
Merci
pour n'avoir pas rendu des services qu'on attendait. Et entre au niveau des assemblées aussi, il y a
professeur
la carence justement des institutions judiciaires chargées de contrôler efficacement l'administration ou la gestion des institutions provinciales.
Professeur Toingao, merci. Jusqu'à ce niveau-là, on vous garde encore dans l'émission. Nous avons compris que pour vous, la situation qui prévaut dans les institutions provinciales est le reflet de ce qui se passe à l'échelle nationale. Vous parlez également de la mauvaise construction des textes et la mauvaise conception du pouvoir. Professeur Mbouéboa, comment vous expliquez ces détournements? Vous avez suivi le professeur Toingao.
Bon, vous savez, personnellement, je trouve que ce sont des choses qui peuvent arriver dans un État qui est en train de s'organiser, en fait. Parce que le pouvoir provincial, vous savez, c'est nouveau. C'est la nouvelle constitution qui donne aux provinces les pouvoirs qu'elles ont maintenant. Et bénéficiant de ces pouvoirs réels. Alors, les animateurs de ces provinces-là, n'est-ce pas, abusent de ces pouvoirs-là, parce que les pouvoirs, les provinces ont la gestion de leurs ressources financières, comme l'article 3 de la Constitution le dit. Et donc, comme les provinces jouissent de la libre administration, de l'autonomie, et qu'elles peuvent gérer leurs ressources financières, il est important qu'au niveau des provinces, on met en place des mécanismes qui empêchent aux gens de faire des ressources, des fonds publics, n'importe quoi. Vous savez, lorsque les gens ne sont pas suffisamment contrôlés, lorsqu'il n'y a pas de mécanismes qui permettent que les gens qui détournent le fonds soient rapidement dénichés et qu'ils soient sanctionnés, ça peut arriver. Et donc, le fait que la Cour des comptes, qui est prévue dans la Constitution, et qui a aussi pour mission, comme on voit à l'article 180 de la Constitution, que la Cour des comptes contrôle la gestion des finances de l'État, des biens publics ainsi que les comptes des provinces, des entités territoriales, des centralisées et des organismes publics. Le fait que cette Cour des comptes n'est pas encore opérationnelle au niveau des provinces, ça peut faire aussi un handicap. Il y a des services, notamment de l'inspection de finances, n'est-ce pas, les inspecteurs de finances, qui doivent aussi sillonner les provinces pour contrôler. Et comme ces mécanismes-là ne sont pas encore fonctionnels, les animateurs qui sont au niveau des provinces profitent, n'est-ce pas, de ces temps pour détourner les ressources publiques.
Donc, si je vous ai compris, professeur, vous dites que les institutions provinciales, c'est une nouvelle expérience,
voilà.
Et qui justifie un peu le tâtonnement que l'on connaît là.
Voilà. Donc,
et vous parlez aussi du manque d'absence de mécanismes de contrôle.
De contrôle.
Mais le professeur Toingao a parlé de la mauvaise construction des textes.
Non, moi, je ne pense pas qu'on puisse parler de la mauvaise construction des textes. Vous savez, dans aucun pays, la démocratie ne garantit la qualité ou la compétence des élus. La démocratie garantit simplement que les personnes élues auront la légitimité politique nécessaire.
les élus auront la confiance de la population. Mais cette confiance que les gens ont dans les gens peut être simplement une confiance due au fait que c'est une personne qu'on connaît, c'est l'enfant d'un pasteur, c'est l'enfant de qu'on connaît bien dans le village ou qu'on connaît bien dans les quartiers. Et donc, sur cette base-là, on élit quelqu'un. Et lorsque vous élisez quelqu'un parce qu'il est gentil, parce qu'il est correct et il est bien connu dans les quartiers, ça ne garantit pas que cette personne que vous élisez sera compétente lorsqu'elle sera affectée au poste. Donc, c'est ça la grande difficulté. Donc, je ne pense pas qu'on puisse dire que c'est le texte. Parce que même si on dit il faut que les gens aient des diplômes, c'est à cela qu'il parle des gens. Ces gens-là qui ont les diplômes, nous avons beaucoup de gens qui ont un diplôme, qui volent, qui prennent l'intelligence, qui les mettent au service, n'est-ce pas, de la mauvaise cause. Et à ce moment-là, donc, c'est pas ça le fond.
Guigui Gaston Désiré Moulombolé, vous êtes politologue et chef des travaux à l'université de Lubumbashi. Vous avez tour à tour suivi le professeur Toingao et le professeur Mbwebwa. Qu'est-ce qui, d'après vous, justifie ces cas de détournement dans les institutions provinciales?
Oui, je crois qu'il y a plusieurs faits à la base. Le premier que j'aimerais d'abord épingler, c'est que ce fait-là est lié même à la nature, à la qualité plutôt des hommes qui ont été élus. Comme un de mes prédécesseurs l'a dit, ces gens-là ont été élus tout simplement parce qu'ils ont été quelque part populaires. Et ceux qui les ont élus, c'est-à-dire la population, n'a pas tenu compte d'un certain nombre de critères, c'est-à-dire notamment la probité morale, notamment la formation, et bien d'autres critères en passe. Ça, c'est le premier fait. Le second fait, c'est que les institutions mêmes, provinciales, dans leur composition a eu pour critère, pour la plupart de cas, le militantisme. C'est le parti qui était majoritaire au niveau d'une province qui devait composer le gouvernement provincial. Et en le composant, il y a des critères tout à fait subjectifs qu'on a pris en compte et qui n'avaient rien de plus à apporter en termes de rationalité de gestion. Ce qui fait que la plupart des gens qui ont été propulsés soit comme ministre, soit comme membre du bureau de parlement au niveau provincial, l'ont été par militantisme. Et de ce fait-là, comme vous le savez, lorsqu'on est militant d'un parti, on défend plus la cause du parti, du chef du parti qui vous a propulsé au pouvoir, au lieu de défendre la cause du peuple qui vous a élu, qui vous a mandaté. Hein, je crois que dans le choix, dans la composition des gouvernements provinciaux, dans la constitution des institutions provinciales, il y a eu ce fait-là. Et ça fait que ceux qu'on a propulsés ont plus de comptes à rendre vis-à-vis de ceux-là qui les ont propulsés que vis-à-vis de la population. Ils se sentent un peu tellement libres et qui se permettent de tout.
Didier,
deuxièmement,
Didier Gaston, j'ai compris que vous parlez de la qualité des hommes qui ont été élus et de la composition des institutions provinciales, mais le professeur Mbwebwa a relevé que c'est une nouvelle expérience, les institutions provinciales, et c'est ce qui justifie ce tâtonnement-là.
Oui, les institutions provinciales, certes, c'est une nouvelle expérience, peut-être en ce qui concerne le gouvernement provincial, mais lorsque vous relisez l'histoire politique de notre pays, je crois que dans notre pays ici, lorsque vous voyez la constitution dite de Loulouabourg, cette constitution a prévu des gouvernements provinciaux et qui ont existé dans le temps. Hein? Donc, c'est peut-être une nouvelle expérience par rapport à la durée qu'avait duré la première expérience, parce que les gouvernements provinciaux avaient existé dans le temps dans notre pays, les assemblées provinciales avaient existé dans notre pays. Vous vous rappellerez même du temps du maréchal Mobutu, nous avions des assemblées régionales. C'est pratiquement ce qu'on a renouvelé et on a ajouté à ça des gouvernements provinciaux. Je crois que, bon, une nouvelle expérience comme telle, bon, peut-être en termes de durée, hein, parce que dans le temps, ça n'avait pas tellement duré, il y a eu trop de conflits politiques, il y a eu trop de problèmes politiques qui n'avaient pas permis à ces institutions de fonctionner normalement. Mais par rapport à leur essence, par rapport à leur existence, je crois que c'est pas tellement une nouvelle expérience. Mmh. Moi, je maintiens et je crois qu'il y a un problème de qualité d'homme. Merci. On a parachuté tellement des gens par militantisme, des gens qui ne savent pas ce qu'ils doivent faire, et à l'approche des nouvelles échéances politiques en 2011, qui croient que c'est le moment de remplir leurs poches pour préparer les prochaines échéances.
Merci.
Mais je donne aussi raison au premier prédécesseur, au premier intervenant,
le professeur Toingao.
Le nom là.
Le professeur Faustin Toingao.
Oui. Lorsqu'il a parlé, lorsqu'il a dit que ces gens-là voyaient lorsqu'il a évoqué le problème du système. Comment voulez-vous que dans un système, comme vous le savez, un système c'est un ensemble d'éléments interconnectés, hein, les uns aux autres, de telle sorte que lorsque une relation entre les éléments ne marche pas, l'ensemble ne marche pas. Lorsque vous prenez les institutions nationales, au niveau national déjà, on détourne, on vole. Comment voulez-vous qu'on le fasse par en bas ?
Didier Gaston Moulombole, on vous a compris, oui. Nous allons redonner la parole au professeur Faustin Toingao. Professeur Didier Gaston Moulombole, vous l'avez suivi, parle de la qualité des hommes. Est-ce qu'à ce niveau-là, on peut parler d'un certain manque d'initiation à la culture de la gestion de la chose publique ?
Évidemment, il y a ça. Il y a ce fait-là que les hommes qui animent aujourd'hui les entités provinciales n'ont pas été préparés. Et évidemment, il n'y a pas une école où on forme les gestionnaires des entités décentralisées, où on forme les gouverneurs, où on forme les membres des bureaux de l'Assemblée provinciale. Il n'y a pas une faculté pour ça. Mais cela ne constitue pas une raison pour que lorsqu'on a lancé la réforme, il fallait qu'on puisse prendre des dispositions, qu'on a affaire aux gens qui ne sont pas préparés à vivre la décentralisation, qui ne sont pas préparés à se prendre en charge, qui ne sont pas préparés à traduire dans les faits le principe de la libre administration. Il fallait justement qu'au niveau des instruments juridiques, qu'on puisse prendre suffisamment de précautions pour doter les institutions provinciales des hommes capables, des hommes qui ont l'esprit d'initiative, les hommes qui ont peur des marginaux des biens publics. Donc ces hommes avec une certaine moralité sur le plan public. Malheureusement, quand j'insiste sur le texte, c'est dans ce sens-là. Il n'y a pas eu la formation, mais il fallait prendre des précautions au niveau des textes pour amoindrir la possibilité d'avènement de n'importe qui au niveau des institutions provinciales. Je crois que ce qui arrive, c'est vrai que c'est lié à la jeunesse du système, mais nous allons toujours nous dire que nous sommes jeunes, nous sommes un pays jeune. Le pays aujourd'hui a 50 ans, l'année prochaine, à ces quatre âges, on va toujours dire que nous sommes jeunes. Et quand est-ce qu'on deviendra adulte, hein? Le pays, ceux qui ont conçu ces institutions ne sont pas des jeunes. Ceux qui ont conçu ces systèmes, ce sont des hommes responsables. Donc il fallait réfléchir et tenir compte de l'expérience du passé pour éviter qu'on ressemble à les mêmes erreurs.
Professeur Toingao.
Oui.
Il y a beaucoup d'auditeurs qui nous écrivent à ce sujet, notamment Michel de Kinshasa qui dit ceci, les détournements des deniers publics observés au niveau provincial sont dus à plusieurs raisons, notamment le parrainage politique, le manque de contrôle de l'exécutif par les assemblées provinciales, la corruption a élu domicile dans ces hémicycles provinciaux. Brièvement.
Tout à fait. Ils n'ont pas tort. Hein? Ils n'ont pas tort, dans ce sens que quand ils disent qu'il n'y a pas de contrôle, c'est vrai. Et le contrôle ne peut être organisé que par les textes. Les textes qui ont été adoptés par les deux chambres du Parlement pour organiser la libre administration des provinces n'a pas prévu la tutelle qui existe dans tout système décentralisé. Et ce qui fait que le contrôle qui doit se faire au niveau des institutions provinciales ne peut être qu'un contrôle juridictionnel. Il n'y a que des cours, les tribunaux qui peuvent contrôler ces institutions-là. Mais vous savez que à ce niveau, débat, nous sommes grandement en retard pour la mise en place des institutions judiciaires, pour la réforme judiciaire. On a prévu des cours administratifs d'appel qui ne sont pas encore là. On a prévu la cour constitutionnelle qui n'est pas encore installée. Évidemment, les cours qui sont là, ils peuvent en attendant faire ce travail.
Merci, professeur.
Je crois que là, c'est une réforme qui se fait à plusieurs vitesses. Et du côté du contrôle, il y a effectivement des problèmes très sérieux.
Merci, professeur.
Les institutions provinciales doivent échapper à la tutelle du pouvoir central.
Merci, professeur.
Il fallait suffisamment de précautions pour éviter le pire.
Merci, professeur. Professeur Mbwebwa, vous avez semblé ne pas être très d'accord avec le professeur Toingao.
Non, je ne vois pas en termes de d'accord ou pas d'accord. Hein. Donc, je continue à présenter mon raisonnement en disant que nous vivons une nouvelle expérience où on transfère aux provinces un pouvoir réel et les compétences, n'est-ce pas, qui étaient autrefois gérées par l'État, ont été réparties entre le pouvoir central et les provinces. Donc les gens qui sont au niveau des provinces jouissent des véritables pouvoirs. C'est dans ce sens-là qu'on voit qu'il y a des détournements. Alors, il est important aussi de savoir que les textes prévoient que le gouvernement provincial soit contrôlé par l'Assemblée provinciale. Et cette Assemblée provinciale est constituée des élus. Ce sont les députés provinciaux qui sont élus par le peuple. C'est à eux d'exercer ce contrôle. Donc, ce n'est pas qu'il n'y a pas un contrôle qui existe. Il y a un contrôle, donc la responsabilité donc, des assemblées provinciales. Et ces assemblées, étant donné qu'elles émanent directement du peuple, du suffrage universel, je pense que la population, le moment venu, pourrait les sanctionner. Donc, de ce point de vue, je pense que c'est bon. Et bon, en ce qui concerne la formation, je ne sais pas si ceux qui sont au niveau provincial sont différents de ceux qui sont au niveau national. Ce sont les mêmes Congolais. En général, ce sont des licenciés, ce sont des diplômés, ils ont des diplômes, tous ces gens-là.
Professeur Mbwebwa, il y a d'autres auditeurs hein, qui nous ont écrit, il y a notamment Hilaire Aguenonga de Bouna en province orientale. Ces détournements ont pour origine la corruption et sont visibles par l'enrichissement rapide de nos animateurs provinciaux. Roger Moussangou de Kananga au Kasaï occidental, les détournements sont causés par l'absence de mécanismes forts de contrôle au niveau national. L'assistant Germain Kabanda de Lubumbashi au Katanga, les cas de détournement des deniers publics sont le fruit de la complaisance de la majorité parlementaire vis-à-vis de l'exécutif, complaisance qui se traduit par un manque de véritable contrôle parlementaire dans la gestion des finances publiques, l'impunité et la faiblesse de l'opposition politique à pouvoir contrecarrer ces pratiques de détournement. Enfin, la naïveté ou la passivité du peuple congolais face à ces cas ignobles.
Je vois que ces auditeurs disent des choses qui sont tout à fait fondées. Et outre tout cela, nous devons aussi ajouter le fait que dans notre pays, justement, les gens entrent en politique avec une mauvaise idée.
Dans la mauvaise conception du pouvoir.
La mauvaise conception du pouvoir. Ils ne viennent pas pour travailler, pour servir. Ils voient dans les postes politiques simplement les occasions de s'enrichir. Alors qu'il y a aussi des obligations. Ils doivent l'obligation résultat. Vous gérez quelque chose, qu'est-ce que vous faites pour le peuple en termes d'intérêt général? Est-ce que les animateurs, les gens qui sont nommés à ces fonctions, se sentent redevables par rapport à la population, par rapport aux missions des organes qu'ils dirigent? Et pourtant, ça devait être une qualité. Enfin, un élément qu'il faut aussi ajouter là-dedans, c'est la responsabilité des partis politiques. Ce sont les partis politiques, n'est-ce pas, qui placent les animateurs,
il est important de responsabiliser ces partis politiques parce que dans notre conception, parce que nous avons opté pour le pluralisme politique, avec comme idée que le parti politique doit concourir à l'expression des suffrages, comme l'article 6 de la Constitution le dit, mais en même temps au renforcement de la conscience nationale et à l'éducation civique. Malheureusement, tous les partis politiques, nous ne le voyons pas éduquer d'abord leur personnel politique et ensuite la population, leurs militants. Et pourtant, c'est ça qui doit justifier justement les partis politiques. Si les partis politiques s'est donné la peine d'éduquer les personnels politiques, de responsabiliser ce qu'ils proposent à des fonctions, et en cas de détournement, s'ils s'est gêné d'avoir proposé ces gens-là, je pense que petit à petit, on pourra moraliser la vie politique.
Emina Bassende de Mbandaka à l'Équateur vous pose la question au professeur. Ces détournements, il dit, se déroulent avec beaucoup de complicité, que la justice soit libre pour appliquer la tolérance zéro prônée par le chef de l'État.
Oui, c'est très important. Moi, je pense que dans ces pays, tant que le pouvoir judiciaire ne sera pas à l'aise, ça sera difficile. Vous savez, les gens craignent toujours la prison. C'est le fait qu'il y a une sanction qui amène les gens à être disciplinés. C'est ce qui fait que partout dans le monde, on a l'impression que les autres fonctionnent bien, chez nous on fait n'importe quoi. Parce que les gens sont assurés qu'ils ne seront jamais à Makala ou en prison. Mais si les gens savaient qu'il y avait la possibilité d'aller en prison, je crois qu'ils réfléchiraient des fois.
Didier Gaston, Désiré Moulombole, il y a David Masson, dit de Bukavu Sud Kivu, qui dit « Ces détournements se font par certains membres de l'exécutif provincial avec la bénédiction de certains puissants au niveau national. Gérard de Béni au Nord Kivu, que l'Assemblée nationale monte une commission permanente pour contrôler les assemblées provinciales et ceci avec l'implication du gouvernement. »
Je crois que, je l'ai dit tantôt quand je parlais du système, j'ai dit que lorsque déjà au niveau national, cela se passe sans aucune sanction, où on arrête quelqu'un aujourd'hui, et deux jours après, vous le retrouvez dans la rue, en pleine liberté, je crois que ça ne peut avoir que des faits d'entraînement au niveau des institutions provinciales. Deuxièmement, je voudrais dire que la corruption a atteint des dimensions telles que aujourd'hui. Ceux qui sont au niveau les parlementaires provinciaux, qui sont censés contrôler, qui sont censés inspecter le travail de l'exécutif provincial, sont pratiquement à la solde des gouvernements provinciaux qui les dirigent, qui les sous-doient et qui les payent. Ça fait que, bon, ces assemblées-là perdent un peu de leur autonomie parce que financièrement, quand elles osent le ton, leurs émoluments sont bloqués quelque part, ça vient avec 10, 15 jours ou 30 jours de retard. Bon, ça devient une espèce de une forme de pression.
Didier Gaston, il y a Médard Nsouamba de Kananga au Kasai Occidental qui dit « Les dirigeants des institutions provinciales détournent parce qu'ils sont pauvres et veulent s'enrichir rapidement. Vous avez parlé de la qualité des animateurs. Faudra-t-il, par exemple, que l'on tienne compte prochainement du fait qu'un candidat soit pauvre ou pas, ou qu'il ait suffisamment de moyens, par exemple ?»
Moi, je crois que comme aux États-Unis, on ne devrait pas permettre même si c'est au nom de la démocratie, on ne devrait pas permettre aux pauvres de postuler. Parce que
vous faites sourire le prof.
Parce que l'expérience nous démontre que lorsqu'on est pauvre, qu'on accède au pouvoir, la première des choses, on cherche à remplir ses poches plutôt qu'à travailler pour la population qui vous a élu. Hein? Moi, je crois qu'il faut un minimum pour pouvoir gérer la cité.
Voilà, dialogue en
cours. Ça vous mettrait un peu à l'abri de certaines tentations.
Merci. Juste rappeler à ceux qui viennent de se joindre à nous que Dialogante Congolais de ce soir se penche sur le fonctionnement des institutions provinciales. Plusieurs cas de détournement des deniers publics sont enregistrés dans certaines provinces, notamment le Bas-Congo, le Nord-Kivu, le Maniema, le Kassai-Oriental et le Katanga. Qu'est-ce qui explique ces détournements et que faut-il pour améliorer le fonctionnement des institutions provinciales? C'est la deuxième partie de cette émission. Si vous voulez réagir, voici le rappel de nos contacts.
Dialogue entre Congolais. Vous pouvez encore participer à cette émission en téléphonant au 081 890 66 78 ou encore par SMS au 081 05 15 778.
Que faut-il pour améliorer le fonctionnement des institutions provinciales en RDC? Le professeur Séverin Mugango propose pour cela l'amélioration des lois régissant les institutions provinciales et la création des mécanismes de solidarité pour une juste distribution des richesses. On écoute le professeur Séverin Mugango, doyen de la faculté de droit à l'Université catholique de Bukavu, au téléphone de Samuel Kachak.
Deux choses pour moi. Il faut d'abord un effort de construction institutionnelle, d'amélioration des cadres juridiques. Deuxième chose, il faut créer des mécanismes de solidarité de telle façon que les ressources n'aillent pas finir par les mains de quelques-uns et que la grande masse profite par la misère. Et ces mécanismes de solidarité, c'est à travers notamment le budget, à travers la fixation du SMIG, à travers l'amélioration de la législation sociale, la mise en place des mécanismes de sécurité sociale. C'est à travers tout cela qu'on va y arriver. Et j'ai l'impression que malheureusement, le débat n'est pas autour de ces questions-là. Le débat porte plutôt sur d'autres choses, les questions d'infrastructure, les contrats chinois ou autres. Et on ne voit pas très bien où est la place du petit citoyen congolais dans tous les débats actuels.
Guigui Gaston Désiré Moulombolé, vous êtes politologue et chef des travaux à l'Université de Lubumbashi au Katanga. Vous venez de suivre le professeur Mugango, l'amélioration du cadre juridique, une juste distribution des richesses à travers le SMIG, les lois. Qu'est-ce qu'il faut d'après vous pour améliorer le fonctionnement des institutions provinciales?
Ce qu'il faut, je crois que la première des choses, il faut un cadre juridique cohérent.
Et c'est-à-dire
il faut rendre fonctionnel, je m'explique, il faut un cadre juridique cohérent, c'est-à-dire un cadre juridique bien conçu qui donne, qui reconnaît un certain nombre de droits à ceux qui dirigent ces institutions et qui prévoit les mécanismes de leur contrôle et de leur sanction. Ça, c'est de un. Des deux, je crois qu'il faudrait, dans la composition, comme je l'ai dit, des membres des différents bureaux des assemblées provinciales, des membres du gouvernement, qu'on tienne compte suffisamment de la qualité d'études des candidats, de la formation des candidats. Parce que aujourd'hui, on peut bien dire que ces assemblées-là, pour la plupart, sont constituées de licenciés et tout ça. Mais personne n'ignore que la qualité de nos études aujourd'hui, de notre formation universitaire, est au plus bas de son niveau. C'est quel genre d'université que nous avons et qui gère ces institutions? C'est une question. Donc, il faut répondre à cela.
Voilà.
Troisièmement,
très rapidement, concluez par là, je vous en prie.
Et j'ai toujours dit que une loi, pour bien s'appliquer, il faut mettre les gens sur qui on doit appliquer cette loi-là dans les conditions requises qui puissent permettre la bonne application de la loi. Vous ne pouvez pas, lorsque le gestionnaire de l'institution est mal payé, mal rémunéré par rapport à son statut, vous ne pouvez pas lui appliquer une loi qui soit correcte. Dans ce cas-là, la loi devient injuste.
Merci.
Donc, il faut commencer par améliorer leurs conditions et ensuite appliquer sévèrement la loi.
Merci, professeur Mbouéboa.
Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont dites là. Mais vous savez, nous sommes en train de mettre en place un système. Ce système demande le concours de tout le monde. Je ne pense pas que nos textes, nos lois sont comme telles mauvaises. Hein, nos lois là ne sont pas mauvaises. Je pense que c'est l'homme, le Congolais, qu'il faut, n'est-ce pas, éduquer pour qu'il puisse se comporter de manière correcte. Et je ne pense pas que ce sont les intellectuels qui ont l'apanage de l'intégrité dans ce pays. Au contraire, je pense que beaucoup d'intellectuels vont à l'université apprendre la science, mais cette science-là, du point de vue éthique et du point de vue moral, n'est-ce pas, on ne les aide pas. Et finalement, ce sont simplement des truands. Ce sont les gens, les assoiffés d'argent, ils cherchent l'argent. Mais dans ce contexte-là, nous ne pouvons pas fabriquer d'autres Congolais. Nous avons ces Congolais-là, voilà. Ce sont ces gens-là qui sont Congolais. Ce qu'il nous faut, ce sont des lois, n'est-ce pas, qui mettent en, qui des mécanismes de contrôle, n'est-ce pas, qui soient assez rigoureux, qui soient objectifs, qui permettent que les gens qui sont fautifs soient sanctionnés. Et si ces mécanismes-là fonctionnent, vous verrez que tous ces gens-là vont essayer, n'est-ce pas, de faire leur effort. Parce que je vois quand même des Congolais qui travaillent dans d'autres organismes, qui sont à l'extérieur, et dans ces contextes-là, ils se développent très bien, et on les apprécie. Mais lorsqu'ils sont dans notre pays, n'est-ce pas, qu'ils sont dans vos affaires ici, chez nous, au lieu d'aider au développement du pays, ils travaillent contre le développement de ces pays. Et donc, je ne pense pas que c'est un problème de loi. C'est plutôt un problème de volonté de tout le monde à pouvoir dénoncer les mal, avoir le courage de dénoncer les mal d'où qu'ils viennent. Parce que souvent, le mal, lorsqu'il vient des proches, membres des familles, de sa province, de sa tribu, de son clan, on est prêt à solidariser avec l'homme, le coupable. Et pourtant, il est important que dans ces pays, qu'on développe la culture des justices, la culture, n'est-ce pas, du bien, pour étouffer le mal.
Mais professeur, avec toutes les influences politiques que l'on connaît dans le pays actuellement, est-ce facile cette solution que vous proposez?
Ce n'est pas facile, mais il faut décider, parce que les Congolais sont arrivés à un point où ils sont très bien conscients de ce que le mal, de ce que les détournements a fait à ce pays. Voyez le point où nous sommes arrivés par rapport à l'année où nous avions l'indépendance. Donc le Congolais, il est conscient de ce que le détournement, de ce que le vol fait. Mais le Congolais n'est pas conséquent. Lorsque le voleur est son ami, lorsque le voleur est son frère, le Congolais n'est pas prêt à les dénoncer. Il est prêt à les protéger, il est prêt à les comprendre. C'est ça notre problème, nous ne sommes pas conséquents.
Professeur Faustin Toingao, vous venez de suivre le professeur Mboebora ainsi que le chef des travaux Guigui Gaston Moulombolé. Le prof Mboebora dit qu'on ne peut pas créer d'autres Congolais, mais il faut éduquer le Congolais que l'on a actuellement.
C'est vrai, on doit éduquer et éduquer davantage les Congolais. C'est ce que nous avons dit. Mais comment on doit faire cette éducation? On ne peut pas négliger l'aspect juridique de la question. Il faut que, au niveau des textes, les choses soient cohérentes pour que le reste soit facile. Donc, moi, je pense que pour répondre à votre question principale, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut situer les actions à faire à deux niveaux. D'abord au niveau du pouvoir central, le pouvoir qui organise la réforme. Il faut suffisamment de volonté. Et cette volonté doit être traduite dans les faits. Elle doit être traduite dans la poursuite du processus. Parce que la décentralisation, nous sommes dans ce thème-là de la décentralisation provinciale, c'est un chantier, même si on n'appelle pas ça chantier, mais elle est un chantier. Et ce chantier est encore au début. Il reste encore beaucoup de choses à faire sur le plan des textes juridiques. Il faut parachever le processus. Nous invitons le Parlement à poursuivre le processus, à voter les textes qui restent, et aussi à mettre sur pied les institutions judiciaires qui ont la responsabilité de contrôler des institutions provinciales. Le professeur, mon collègue, a dit à l'Assemblée provinciale, il y a les députés sont votés, ils ont la mission de contrôler l'exécutif. Mais dans les répertoires des cas que vous avez cités, il y a des détournements, même au niveau des assemblées provinciales. Mais qui doit contrôler l'Assemblée provinciale? Si le texte n'organise pas le contrôle des actes posés par les membres du bureau, c'est que c'est un bureau totalement indépendant qui peut se permettre n'importe quoi. Voilà, il y a des cas de motion, des déchets contre les membres du bureau. Vous avez cité le cas du Bakongo et d'autres cas hier. À ce niveau aussi, il faut que le texte soit clair pour contrôler cela. Et il n'y a qu'un contrôle juridictionnel qui est admis dans les cas d'espèce dans notre pays. Donc, ça c'est au niveau central. Et au niveau provincial, nous insistons sur le fait que on a besoin des hommes éduqués, mais des hommes aussi instruits. Vous voyez, on peut avoir l'éducation, mais il faut aussi un minimum d'instruction. Et dans le recrutement de ces partenaires politiques, nous insistons sur le fait que le texte doit garantir un minimum de sérieux dans la sélection. Il faut que les candidats président de l'Assemblée provinciale, les candidats gouverneurs, les candidats ministres, puissent remplir un minimum de critères au-delà du simple fait qu'on est congolais.
Merci, professeur.
Ce n'est pas quand même n'importe qui. Aujourd'hui, on est en train de brûler les braises de le soir et demain matin, on est nommé ministre. Non.
Merci, ça, professeur.
La démocratie, il faut quand même qu'elle soit organisée.
Merci, professeur. Il nous reste très peu de temps pour terminer cette émission. Nous allons atterrir avec cette série de réactions des auditeurs auxquelles je vais vous demander de réagir. Jules, d'ici moi de Goma en Nord-Kivu, crier au détournement ne résout en rien le problème, mais sanctionner les promoteurs est l'idéal comme c'est le souhait des Congolais. Eric Bakajika de Dar es Salaam en Tanzanie, la solution est d'amorcer des poursuites judiciaires contre ceux qui détournent les deniers publics comme c'est le cas dans d'autres pays. Fikiri Saïdi Papi d'Ouvira au Sud-Kivu, la lutte contre le détournement devrait être le premier chantier du pays. Serge Mwambila, Binsefu d'Isiro en province orientale, les institutions provinciales ne fonctionnent pas de façon constitutionnelle et démocratique car elles ne respectent pas les prérogatives qui leur sont dévolues. Professeur Mbouéboa, allons-y avec vous, c'est aussi votre conclusion.
Oui, je pense que ceux qui donnent ces avis-là ont raison. Notre pays est un pays qui doit fonctionner comme les autres pays dans la discipline et dans l'ordre. Et il y a beaucoup de résistance. Les gens se sont habitués à faire tellement des aventures sans être sanctionnés. Je pense qu'il est important que la sanction fonctionne et qu'on récompense ceux qui travaillent bien. Parce qu'il y en a aussi qui travaillent bien, qui ne sont pas encouragés. Qu'on encourage la culture du bien, de ceux qui travaillent bien, et les mauvais soient sanctionnés. Je crois que c'est très important. Pour le reste, nous n'avons pas à perdre la foi dans nos institutions. Parce qu'elles sont jeunes, il faut les aider à évoluer.
Professeur Faustin Toengao, votre conclusion également.
C'est ce que je viens de dire.
En 20 secondes, je vous en prie.
C'est vrai que c'est une réforme, une grande réforme qu'on a tenté de mettre en œuvre. Ça appelle suffisamment du courage et suffisamment de bonne volonté. La volonté d'abord du pouvoir central pour accompagner cette réforme avec beaucoup de responsabilités et la volonté aussi de la part des animateurs des institutions provinciales qui doivent comprendre que les institutions qu'ils gèrent ne sont pas leur boîte privée.
Merci, professeur. Merci, professeur. Permettez-moi de vous arrêter là. Il me reste à peine 30 secondes. Guigui Gasson, Désiré Moulombolé, je vous demande juste un mot pour clôturer cette émission. En un mot.
En un mot, je crois que pour que cette décentralisation réussisse, on doit tenir compte de la qualité des élus et il faudrait que le gouvernement central puisse aider les gouvernements provinciaux et ou les institutions provinciales à mieux gérer cette décentralisation financièrement, parce que à ce jour.
Merci, c'est avec vous Dédé Gaston Didier Moulombolé que nous terminons cette émission. Merci à nos invités. Cette émission a été réalisée par Kéline Couté, assistée de Samuel Kachak, et mise en onde par Sylvain Matundu sous la coordination de Martin Sebujangwe. Présentation Alain Hirung. Retrouvez cette émission sur www.radiocapi.net. Au revoir.